les routiers au Moyen Âge. À travers l'évocation de ces personnages peu recommandables, Jean Mouly, architecte, ingénieur et enseignant, raconte quelques instants d'histoire en Provence, et notamment en Haute-Provence.
Jean, nous étions vus pour l'école Porteur en Provence, et nous avions évoqué alors des personnages qui n'étaient pas forcément sympathiques.
Mais après avoir parlé d'école Porteur, qui aussi sillonnait la région, mais pacifiquement, et bien, de personnages extrêmement désagréables. D'ailleurs, dans toute la France, qu'on avait appelé les routiers, c'est-à-dire en fait des gens qui vont piller la France, et en particulier notre région, on va voir sur Riez ce que ça a pu donner. Alors, les routiers, c'est quoi? Ben, ce sont des guerriers professionnels qui sont recrutés par les rois, par les seigneurs, pour faire leur guerre, puisque dans ces époques-là, les armées n'existaient pas. Donc, quand on voit, par exemple, le roi de France descend en Italie avec 20 000 soldats, en fait, il y a 4 000 ou 5 000 ou 10 000 qui sont des mercenaires les plus connus. Ce sont les Suisses, bien entendu. Les Suisses, parce que par tradition, les Suisses ont toujours été, depuis le haut Moyen-Âge, des troupes soldées, tous ces paysans qui descendaient dans la plaine, pas de boulot, donc ils se vendaient comme mercenaires, c'est-à-dire être payés pour faire la guerre, et ça a continué jusqu'à la garde pontificale du pape, ce sont des Suisses.
Quel roi de France ?
Charles VIII ou Louis XII, quand ils descendent, de même qu'ici, pour notre région, Charles d'Anjou, qui voulait absolument mettre la main sur la Provence, alors qu'il avait déjà le Languedoc, il a engagé des centaines de guerriers, de mercenaires, donc on appellera des routiers, et qui étaient des Castillans, qui sont venus dans la région et qui ont pillé la région de Riez. Et ces mercenaires, on va les retrouver dans toute l'histoire, puisque dans l'histoire de France, par exemple, du temps de Richelieu, il y a une bande célèbre qui a laissé un souvenir épouvantable en Franche-Comté, c'est les bandes de Saxe-Weimar. Saxe-Weimar, c'était un duc allemand qui a recruté des tas de gens, qui a fait une armée carrément à lui, et qui passait d'un camp à l'autre, et notamment après la guerre de 30 ans, et s'est mis au service de Richelieu. Il est arrivé en Franche-Comté, il a tellement dévasté la région que les nourrices plus tard, pour bercer leurs enfants, si des enfants étaient bassages, en disant « on te donne aux Suédois ». Les Suédois, c'est des troupes Saxe-Weimar. Alors donc, ces mercenaires vivent généralement donc sous les ordres du roi ou d'un grand seigneur et vivent pendant le temps de guerre. Le gros problème, c'est qu'au moment où il n'y a plus de guerre, ces gens-là sont lâchés dans la nature et ça devient l'horreur. Un exemple tout simple, Arnaud de Cervol, qui est un des grands chefs de routiers, sert les Anglais, puis sert la France, du Guesclin, en Bretagne, puis désert du Guesclin pour passer aux Anglais, puis après il va être au service de Philippe de Bourgogne, qui veut se battre contre les Anglais en Sologne, et tout se passe bien, si j'ose dire, sauf que quand la paix arrive en 1360, Arnaud de Cervol en profite pour piller toute la région. Et il fait tellement de drames, tellement d'horreurs, qu'un de ses adjoints, qui s'appelle Thierry de Janville, va le laisser tomber parce qu'il trouve que tout ça, c'est terriblement amoral. Et pour les plus anciens d'entre nous, Thierry de Janville, ça dit quelque chose, et Thierry la fronde. Donc les routiers, alors une route, donc c'est une bande armée. Hein. Et généralement, ça accompagne une lance. Alors une lance, ça c'est les nobles, puisque les armées étaient faites par le banc et l'arrière-banc. Alors une lance, c'est un chevalier, un adjoint, un valet, un coutilier. Le coutilier, c'est affreux, c'est celui qui est à pied et puis qui va, avec sa dague, percer les armures des gens qui sont au sol ou leur demander une rançon. Voilà, donc une lance, c'est cinq personnes. Et l'armée, généralement, c'est fait d'un certain nombre de lances, plus donc les mercenaires.
Alors pourquoi la route, justement? Il y avait très peu de routes pendant un moment, alors pourquoi des routiers?
La route, parce que prendre la route, ça voulait dire partir à travers l'espace. Non, les routes, il n'y en avait pas, ça c'était vraiment le gros problème. Et quand il y avait une route, eh bien, tous les gens qui étaient le long de la route bénéficiaient de ça, ou au contraire, se récupéraient toutes les guerres parce que le passage était impératif. Et on en reparlera sur Riez, puisque Riez était un des grands carrefours depuis le temps des Romains. Alors donc ces routiers qui au début, on appelait ça d'ailleurs les grandes compagnies. Les grandes compagnies, donc c'était les unités structurées, Simon de Baldfold, le Capital de Buch, Arnaud de Cervol, j'ai déjà cité, et donc c'est la guerre de Cent Ans, et dès que la paix va arriver, une paix temporaire en 1360, alors ça va arriver sur notre région, 1360, ces bandes-là, on ne les paye plus, on les licencie, donc les gens vont se répartir à travers toute la France pour essayer de vivre sur le pays. Alors, on va voir apparaître une parenthèse particulière qui touche notre pays, c'est qu'il y a une bande qui va être commandée par quelqu'un qu'on n'attendait pas, qui va passer ici, c'est du Guesclin. Alors, du Guesclin, qu'est-ce qu'il vient faire ici dans la région ? Eh bien, le roi de France qui essaie de se débarrasser de tous ces mercenaires dont il avait besoin. Il s'agit de Charles V, le roi de France, qui lutte donc contre les Anglais et qui va essayer de se débarrasser de ces grandes compagnies qui pillent toute la France. La solution, une solution qui a été trouvée, leur faire la guerre, et ça marche très mal, puisque une troupe royale est envoyée contre un groupement de routiers. Ça se passe près de Lyon. Il y a quand même près de 10 000 routiers qui se réunissent et qui battent l'armée royale à Brignais, ce qui montre effectivement la puissance de ces guerriers. Alors, le roi de France trouve une solution avec le pape, c'est de dire « on va faire une croisade ». Alors, on va faire une croisade, on va payer tous ces mercenaires pour partir avec un grand chef à leur tête, ce sera du Guesclin. Le grand chef à leur tête va les amener non pas vers l'Italie, parce qu'au bout d'un moment, on dit bon, on n'ira pas en Italie, mais on va aider Henri de Transtamare, qu'on va retrouver dans notre région, Henri de Transtamare, qui est l'héritier du roi de Castille, à qui on a pris le trône et qui veut rétablir son trône en Castille. Henri de Transtamare, on va l'aider, on va mettre les grandes compagnies et on va amener tous ces gens en Castille. Ils vont traverser toute la Provence. Manque de chance, en Castille, ça va mal se passer. Ils vont remonter et, ayant pillé une fois toute la Provence en descendant, ils vont la piller de nouveau en remontant. Et du Guesclin, malgré, si j'ose dire, sa droiture et son caractère de chef militaire, est obligé d'accepter que les bandes vivent comme ça. Un exemple, ils pillent toutes les villes et s'ils ne pillent pas, eh bien, ils demandent une rançon. Par exemple, Avignon est obligé de payer, je ne sais plus, 70 000 florins. Florins, c'est les pièces d'or qui étaient rares. 70 000 florins pour ne pas être pillé. Donc tout le long du Rhône, surtout sur la rive gauche du Rhône, ça c'est l'Empire, ils vont descendre et en Provence, je rappelle que la Provence n'est pas française, donc ce n'est pas sous les ordres du roi, ils vont se permettre toute une série d'exactions, et l'exemple de Riez est un des bons exemples. Alors peut-être avant de parler de Riez, on peut dire quand même ces routiers, pourquoi ils étaient tellement efficaces, pourquoi ils pouvaient prendre toutes ces villes? Pour une bonne raison, c'est que, un, ils savaient faire la guerre, deux, ils n'avaient pas des armements extraordinaires, ils ne pouvaient pas traîner des canons, donc ils avaient de l'armement léger, et ce qu'ils savaient faire, c'est prendre par surprise ou prendre d'assaut. Ce qu'on appelait échelé, par exemple, monter avec une échelle le long des murs. Donc ça, c'était leur technique, ça leur a permis de prendre toutes ces petites villes qui n'étaient pas armées. Ça, dans le climat général de la France, qui est en guerre, sauf la Provence, qui est en guerre contre les Anglais. C'était à peu près le temps de 50 ans avant Jeanne d'Arc, pour marquer les dates. Et au moins, on allait voir que la France était déjà en guerre, ce qui était déjà horrible. Il venait de se passer le drame terrible de 1348, la peste noire. Alors, la peste noire qui part de la Méditerranée remonte à travers toute l'Europe. Et là, c'est 25 millions de morts sur l'ensemble de l'Europe, c'est-à-dire le quart de la population européenne disparaît. En Provence, ça peut être 50%. Je crois que Manosque, c'était près de 60%. Et ceux qui ont pu à peu près s'en tirer, c'est ceux qui sont très vite montés sur les hauteurs. Une parenthèse, quand la peste reviendra au XVIIIe siècle à Marseille, les gens auront tiré des conclusions, et ça va rappeler notre époque actuelle, c'est qu'ils vont jouer le confinement. C'est-à-dire tous les villages vont se fermer. Par exemple, le long du Verdon, il y aura 18 guérites qui empêcheront les gens du sud de remonter. Et les gens ne pourront remonter qu'avec un billet de santé, le pass actuel. Donc le 1348, c'est l'épouvante. Donc la France, la peste noire, la guerre de 100 ans, un roi qui va devenir débile, hein, et qui sera d'ailleurs remplacé par son fils, qui sera battu par les Anglais, il va se replier à Bourges. Ce qu'on appelle le petit roi de Bourges.
Et son fils qui était ?
Charles VII, qui va être aidé par qui ? Par Jeanne d'Arc. Alors pourquoi je parle de Jeanne d'Arc ? À cause de Yolande d'Aragon. Pourquoi je parle de Yolande d'Aragon ? Enfin, c'est elle qui gère la Provence pour le moment. Et Yolande d'Aragon qui a un comté en Lorraine, le comté de Bar, a entendu dire qu'il y avait une jeune fille qui voulait absolument sauver la France et sauver le roi. Donc elle va payer le sire de Baudricourt pour amener Jeanne d'Arc voir le roi. Quand on dit comment Jeanne d'Arc a rencontré le roi, c'est toujours Yolande d'Aragon qui l'amène, et c'est Yolande d'Aragon qui va payer tous les mercenaires et les armées pour que Jeanne d'Arc prenne Orléans. Pour revenir à cette ambiance générale, la Provence, donc, était en dehors de la guerre des Anglais, va se retrouver sous les routiers. Et avant, si j'ose dire, elle avait expérimenté douloureusement toutes les guerres sur son territoire, puisque tous les seigneurs ont passé leur temps, depuis le 11e ou 12e siècle, à se faire la guerre pour, comme des mauvais voisins, pour se prendre le territoire. Alors les Blacas contre les Castellanes, le seigneur d'Ops contre le seigneur de Rougon, c'était des petites seigneuries. Castellane, par exemple, contre Castellane, avait Saint-Jurs sous sa coupe, mais il y avait 6 autres seigneurs, et des fois le seigneur, un des seigneurs, n'avait peut-être qu'une partie d'une maison. Et donc il y avait des guerres sans arrêt, d'où ça explique que tous ces quelques remparts du XIIe siècle, comme à Montmeillon, là, du Var, ou même quand vous prenez, c'est bien connu, les tours sarrasines de Cotignac, qui sont des tours d'observation du XIIe siècle, c'est des guerres intestines, hein. Les Arabes ont quitté la Provence en 986, les tours sont du XIIe, mais c'est intéressant, comme les Suédois, dont on garde la mémoire en Franche-Comté, là on garde la mémoire des Arabes. Alors donc, la Provence est habituée à ces guerres-là, vivait plus ou moins en paix jusqu'au moment de l'apparition du déclin. Et ça, Riez en témoigne bien, puisqu'on va voir 3, 4, 5 campagnes de fortifications successives et qui correspondent au passage des routiers. Lesquels routiers, d'ailleurs, sont sûrement passés ici à Quinçon. C'est Quinçon un rempart tout neuf, mais parce que Quinçon avait été brûlé vers les années 1370 et 1380, la date du passage d'Henri de Transtamare à Riez. Alors Riez est bien connu comme grand carrefour et comme ville surtout passante au Moyen-Âge pour tout ce qui était les tissus, les lainages et tout ce qui était fait dans les Alpes qui descendait vers le sud, avec des teinturiers qui étaient assez célèbres. Donc l'ambiance romaine avait été oubliée depuis les invasions. Et la ville s'étalait un peu dans la partie basse. Et puis, en partie, l'évêque qui était remonté de la partie basse avec le baptistère était plutôt sur la hauteur, c'était fait un beau palais. Et c'est là, à partir du milieu du XIVe siècle, les ennuis vont commencer sérieusement. Alors, on trouve ça dans les textes, plus ou moins bien expliqué. Le livre de référence pour Riez, c'est le livre de l'abbé Ferraud, qui l'a fait fin XIXe siècle, l'histoire de Riez. Alors, la première date, on voit apparaître 1350. La ville commence à faire quelques remparts pour réparer les dégâts des bandes castillanes. Donc ça veut dire que les gens étaient déjà passés. Alors les bandes castillanes, c'est quoi? Eh bien Charles d'Anjou, que j'ai déjà cité, qui avait le Languedoc, a utilisé des mercenaires de Castille pour venir se battre contre les seigneurs de Provence pour prendre la Provence sous sa coupe. Donc on voit à travers cette date-là de Riez que déjà une bande de routiers sont passés et on voit simplement qu'ils ont brûlé le couvent des Cordeliers et la ville basse. Et on retrouve tout ça beaucoup plus grave en 1366 exactement, où on voit Henri de Transtamare, avec du Guesclin, qui vient prendre la ville. La ville essaie de se défendre avec ses quelques remparts, et notamment le château de l'évêque qui est en haut, mais la ville est complètement pillée, la ville basse est incendiée, et les routiers s'installent là pour un moment. Et finalement, la seule façon de les faire partir, alors ils vont vivre sur la région quelque temps, et quand ils vivent sur la région, ça veut dire qu'ils pillent les greniers de blé, ils prennent les animaux qu'on appelait les bêtes à cornes ou les moutons, ils vivent sur le pays, et la seule façon de s'en débarrasser, ils ont resté un an ou deux, il a fallu leur payer une rançon, que Riez était incapable de payer. Donc c'est les États de Provence. Alors quand on dit les États de Provence, et quand on y fait attention, ça veut dire que ce n'était pas les États royaux, c'est bien les États de Provence qui est un royaume indépendant. Les États de Provence vont payer 10 000 florins, je crois 2 000 sétiers de blé et je crois 2 000 moutons pour que Henri Transtamare et son unité continuent et partent vers la Castille. Alors là, apparemment, les gens de Riez semblent souffler un peu, et là, ça ne se fait pas du tout, puisque un des chefs routiers va faire comme beaucoup d'autres routiers vont faire en France, il s'installe sur une hauteur voisine, et puis il s'installe là tranquillement, et il va piller. Alors là, il s'appelle Chamizard, je crois, le capitaine de routiers, avec une quarantaine de routiers, va s'installer sur une hauteur qu'on appelle le Castellet, et qui est entre Montagnac et Allemagne. Le Castellet, on le voit mal sur la carte, on voit ici le ruisseau du Castellet, c'est à côté du plateau de Puberclère. Le plateau de Puberclère, on en parlera peut-être tout à l'heure, pour renvoyer aux guerres de religion, aux autres mercenaires, c'est une des grandes batailles des guerres de religion, quand même 800 morts sur le terrain, ça fait quand même beaucoup. Donc ce capitaine Chamizard s'installe là, Et là aussi, même chose, il pille toute la région. Et finalement, la seule façon de l'expulser, pour une fois, on a payé des gens de la région pour faire une milice. Or, les milices, c'est toujours des gens qu'on enrôle de la région. Ce n'est pas des mercenaires qui ont fini, en payant en plus ce personnage, on finit par l'expulser. Et alors, ce qui est quand même d'étonnant et tout à fait amoral, c'est que non seulement on l'expulse, on le bat militairement, mais en même temps, on lui donne de l'argent. Et même jusqu'à lui racheter tous les troupeaux de bœufs ou de moutons qu'il avait volés.